Bonjour ou bonsoir, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutras et quel bonheur de vous accueillir aujourd'hui dans cet épisode au goût vraiment, vraiment sauvage avec un invité que j'admire énormément et j'ai nommé Mathieu Hébert, cofondateur des Primitifs. Les Primitifs, c'est une école de survie en nature qui a pour objectif de former les gens à être indépendants en forêt, sans utilisation d'éléments modernes, avec une approche basée sur le savoir de nos ancêtres. C'est quelque chose qu'on a peut-être moins senti jusqu'à présent sur le podcast, mais cet aspect très raw de l'humain en relation pure avec la nature me fascine. Alors que je flirte souvent avec des sujets autour du développement personnel et de la spiritualité, ça me fait profondément du bien de cultiver des centres d'intérêt plus physiques, ancrés, enracinés. Quand on revient à la nature et qu'on passe vraiment du temps avec elle en sachant comment vivre et surtout survivre dans son étreinte sauvage, ça nous donne comme une sensation de confiance. Et l'expression « avoir les pieds sur terre » prend tout son sens, selon moi. En plus, on ne peut pas vraiment nier, avec les événements de la dernière année, que nos humains modernes sont peu prêts au temps de crise et que nous sommes très déstabilisés par les sorties de zones de confort. Petit clin d'œil ici au papier de toilette. Bref, je suis attentivement à l'activité des Primitifs sur leurs réseaux sociaux et leur site web depuis quelque temps et tout ce qu'ils proposent m'allume tellement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que leurs événements affichent complet hyper rapidement. Vous pouvez vous familiariser avec eux grâce à la série Les Derniers Humains. Je pense entre autres aux Belles Louves qui se retrouvent outre-mer. Peut-être qu'il y a une façon de le retrouver en ligne, je ne sais pas, qui a été diffusée sur la chaîne Historia ici. Je suis hyper reconnaissante du temps que Mathieu m'a accordé pour l'entrevue aujourd'hui. C'est un humain incroyable. J'ai adoré le temps passé en sa compagnie et tous les échanges non filtrés qu'il vous propose aujourd'hui, qu'on vous propose aujourd'hui. Quelques mots sur Mathieu avant de vous laisser le découvrir plus en détail à travers notre discussion. Il enseigne la survie depuis plus de 12 ans. Il a réalisé plusieurs mandats comme consultant en survie et pistage pour la Défense nationale ainsi que pour la police. Il prêche par l'exemple en se mettant fréquemment en situation de survie. Sa fille a également été impliquée très jeune dans cette passion pour la nature et elle agit aujourd'hui comme instructrice pour les Primitifs, ce que je trouve absolument merveilleux. Vous allez voir, petit avertissement technique, on a eu quelques problèmes avec l'audio, avec le son vers la fin, mais le contenu demeure hyper pertinent, évidemment, et ça se rétablit assez vite. Donc voilà pour le petit avertissement technique. Je remercie les deux commanditaires de cœur du podcast. D'abord, l'école d'herboristerie en ligne, Les Âmes Fleurs. Vous allez voir, aujourd'hui, on aborde les plantes, mais sous le point de vue utilitaire et non médicinal. C'est super intéressant. Et deuxième commanditaire de cœur, la merveilleuse artisane Mélanie, créatrice de bijoux et de magie pour la main bleue. Alors, installez-vous confortablement ou pas, et plongez avec nous dans cette discussion autour de survivalisme, d'astuces de survie, des expériences marquantes et intenses de Mathieu et de plein d'autres sujets primitifs, sauvages et savoureux. Je vous souhaite une fabuleuse écoute. Féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute. Mathieu, bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Quel honneur de t'avoir vraiment. Et je t'en ai glissé un mot avant que t'arrives parce que j'avais comme un genre de petite fébrilité. C'est rare que je suis intimidée devant des gens, mais toi, tu m'intimidais parce que c'est vraiment une belle... parce que c'est de l'admiration, en fait, que j'ai pour toi et pour tout ce que tu fais, pour la belle entreprise que tu représentes maintenant. Donc, merci d'être ici. Merci.
Ouais, ça me fait plaisir, Andréane. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Puis, rien d'intimidant. c'est juste moi, l'humain. Il n'y a pas de problème.
Ouais, mais on va se le dire, tu es quand même un humain que... Admettons que ça se met à aller mal, je veux que tu sois un humain de mon bord, tu sais. Ça tomberait bien si t'étais mon ami, tu sais. Fait que, ouais. Donc, merci beaucoup d'être là. Ça fait longtemps que je pense à toi pour t'avoir sur le podcast. J'avais pas la plug, je trouvais ça un peu froid. Puis là, quand Lydie est venue, si vous avez pas écouté encore son épisode, vous pouvez aller la voir. C'est l'épisode 28, je crois. Puis là, elle m'a parlé de toi, qu'il y avait le contact. Puis elle n'a eu que des beaux mots envers l'humain que tu es personnellement. Donc, j'avais super envie de t'avoir. Alors, merci. Sur cette belle lancée de fleurs, j'aimerais t'accueillir en te posant les questions qui reviennent à chaque épisode.
Oui.
D'abord, la première, comment nourris-tu ton féminin?
Alors, moi, j'ai un côté féminin qui est quand même très fort. J'ai une bonne sensibilité, beaucoup d'empathie. Je suis une personne qui est très empathique. Je fais des arts martiaux depuis que je suis tout jeune. Puis il y a un côté dans le côté martial, je trouve que il y a beaucoup de trucs qui sont pas juste masculins. Donc il y a beaucoup de finesse avec les finesse puis aussi l'énergie de la mort en fait. Pour moi, c'est une énergie qui est féminine. C'est pas quelque chose que j'ai pris dans les livres ou quoi que ce soit, mais la mise à vie et la mise à mort pour moi sont interreliées. Puis c'est ça. Je suis quelqu'un. Je sais pas si c'est l'énergie féminine, mais j'ai quelqu'un qui adore les arts. Donc le dessin, par exemple, la littérature, écrire. C'est rare que les gens qui vont me voir écrire à la main vont pas penser que c'est moi qui ai écrit ça parce que je peux être vraiment nerdy là, je peux vraiment être prendre des notes là, j'aime ça dire je suis une Hermione de la survie là, quand je viens de prendre des notes là, je suis vraiment wow. Les gens s'attendent pas nécessairement à ça. Je fais jamais ça, séparer l'énergie masculin, féminin, mais je le sais que tu sais, je peux avoir un regard là, sur les choses qui est pas nécessairement qui va varier d'un regard d'homme à un regard de plus. Je comprends très bien les femmes. J'ai beaucoup d'amis femmes. J'ai beaucoup de très bonnes amies femmes. Donc je m'entends bien avec les femmes en général.
Wow. Quelle savoureuse réponse! Merci beaucoup pour ça. J'aime beaucoup que tu parles de mort, de cette énergie de mort, renaissance et vie. Merci. Deuxième question, comment honores-tu ta nature?
Ben moi, je l'honore chaque jour. La nature, c'est ma vie. C'est ma vie de l'enseigner. Donc, juste avant le podcast... j'étais en train de montrer à quelqu'un comment tirer à l'arc. Puis ce matin, je faisais des cordes avec du cèdre. Puis hier, je faisais d'autres choses. Je faisais du feu par friction. Donc pour moi, j'honore la nature en passant du temps avec elle. Puis en essayant de comprendre comment nos ancêtres vivaient 100% avec elle. Donc avec aucun rien de moderne, dans le fond. Et pas de magasin. Fait que ça peut être pas mal ma réponse sans vouloir trop m'étendre. Parce que avec une question, je peux faire 2 heures. Il faut que je me limite.
Oui, puis on a beaucoup de choses à voir. En fait, moi, j'ai plein de questions à te poser. Tu vas voir. Merci pour ça. Je l'honore en passant du temps avec elle. Ça va vraiment me rester en tête. On dirait que je vois un beau visuel avec une citation signée Mathieu.
Ouais, je trouve qu'on marche beaucoup sur la nature, mais qu'on passe pas beaucoup de temps avec elle. Je trouve qu'on part en randonnée, on marche sur la nature, on prend un beau selfie, mais le selfie est à propos de nous. Mais on passe pas beaucoup de temps avec elle dans toutes ses humeurs, dans toutes ses moustiques, ses tempêtes, dans toutes ses slotches, dans toutes ses nuits froides. Fait que moi, je fais ça. C'est comme ça que je l'honore, en souffrant.
Ah, c'est bon ce que tu dis. Merci d'être là. Hey, je t'ai excité. Les primitifs. Parlons-en de ce qui a motivé la création de cette entreprise et du nom aussi, peut-être, parce que juste avant d'enregistrer l'épisode, on parlait, puis tu avais souligné à Lydie, c'est quand même drôle parce que sur son site web, elle écrit la première phrase, c'est « Le sauvage n'est en rien primitif ». Puis quand Lydie me l'a dit, j'ai allumé, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, dans le fond, c'est pas vrai, c'est pas exact ce que je voulais dire parce que le primitif, il y a quelque chose de très beau, mais pourtant, ça a une connotation dans l'inconscient collectif, dans le collectif, en fait, de négatif, comme « elle sauvage », tu sais, puis moi, j'ai comme pris le sauvage, puis j'ai essayé de ramener la beauté du sauvage. Donc, ma question, en fait, elle est en deux temps, c'est qu'est-ce qui a motivé la création des primitifs, quelle est votre mission et pourquoi le nom « les primitifs » ?
Ce qui a motivé la création des primitifs, c'est vraiment que il n'y avait pas au Québec d'école comme je voulais au niveau de la survie. Moi, j'ai dû voyager beaucoup aux États-Unis pour avoir ce que je voulais. Puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ça dans ce format-là, qui était facile d'accès, qui était peu cher, qui était pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes, pour les professionnels, pour tout le monde, puis qui était accessible, puis qui était basé sur le plaisir de la survie puis des technologies ancestrales. Fait que, tu sais, oui, tu pouvais aller à l'université dans un programme particulier, mais il fallait que tu sois inscrit à l'université où il y avait des écoles, mais souvent, c'était compliqué de s'inscrire ou c'était pas, c'était dans une région précise, c'était pas toute l'année. Fait que moi, je voyais qu'il y avait vraiment... Je trouvais qu'on était 20 ans en arrière des États-Unis par rapport à l'accessibilité des écoles de... Tu sais, à une école de survie pour monsieur, madame, tout le monde qui veut juste passer un week-end, avoir des bases, puis ou aller plus loin et vraiment se spécialiser. Puis dire, ben moi, j'ai le goût de fabriquer un arc de A à Z à partir de la nature. Fait que je trouvais qu'on n'avait pas ça pendant. Alors, ça a été la motivation avec mes amis de créer ça. Et... pour ce qui est du nom, c'est moi qui l'ai trouvé. Je voulais quelque chose qui incluait tout le monde. Parce que c'est pas une école qui s'approprie un savoir particulier. Peu importe la race puis la religion que tes ancêtres ont fait des arcs et des flèches, ont eu des lances, ont taillé de la pierre. Moi, mes ancêtres, en Europe, ont taillé la pierre. Que tu viennes d'Argentine, que tu viennes d'Australie, que tu sois Inuit, que tu sois russe, que tu sois africain, peu importe que tu sois autochtone, tes ancêtres ont fracassé des os pour faire des outils, ont utilisé des bâtons, ont fait du feu par friction, puis là, c'est juste une question de style, ont utilisé la peau des animaux pour se faire des vêtements, peu importe que ce soit, que tu sois chinois, japonais, n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est des connaissances universelles. Et les primitifs, ben c'est primitif, c'est premier. Fait que c'est les premières technologies. C'est les piliers de ce qui fait que les sapiens sont devenus les êtres humains modernes. C'est les bases de toutes les technologies actuelle. Fait que si on va sur Mars avec un petit robot téléguidé maintenant, qu'on a des images, c'est parce qu'il y a des gens qui ont frotté des bâtons ensemble, qui ont fait le feu, parce qu'on est on est la seule espèce qui a maîtrisé le feu. Si on était capable de le design, un arc et une flèche, c'est de la haute ingénierie, là. Il n'y a pas un animal qui s'approche de ça présentement, là. T'sais, le mieux qui se fait, c'est des animaux qui tirent des bâtons. Mais c'est tout, là. Et donc, on a dans les technologies, premier, ça veut dire que c'est les premières technologies qui nous ont permis de survivre. Parce qu'avant, on était des casseurs d'os, on mangeait la moelle, on n'était pas capable de faire grand-chose, c'était pas prestigieux. Notre héritage était avant qu'on commence à à se développer, puis à assembler des objets, puis à faire des technologies. On était frêles et minables dans la hiérarchie des animaux.
Wow! Donc, il y a vraiment quelque chose de très... c'est la source. J'aime beaucoup comment tu l'expliques et si tu veux bien, je vais me permettre parce que j'ai trouvé sur votre site web un petit passage que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc, j'aimerais peut-être juste le lire parce que c'est très beau puis c'est en lien avec ce que tu disais aussi. Et si tu as envie de rajouter quelque chose, bien sûr, tu iras. Sur votre site web, on peut lire. Nous croyons fermement que ce savoir appartient à l'enfant de la terre qui sommeille en chacun de nous. En parlant du savoir-faire de nos ancêtres, l'expérience des primitifs va au-delà de la survie traditionnelle en ayant pour objectif d'être indépendant en forêt sans utilisation d'éléments modernes. Nous développons les compétences de nos élèves dans la bonne voie, car dans une situation de survie, la connaissance et le savoir-faire ont habituellement plus de valeur que la technologie. Conséquemment, nous donnons aux gens une relation pure avec la nature, sans tous les gadgets et artifices qui nous en séparent. Nos sens retrouvent leur vigueur ancestrale, notre esprit devient plus limpide, notre cœur et notre intuition plus forts.
Wow, tabarnouche, méchant paquet de bullshit, ça.
Arrête, c'est magnifique.
Je sais pas qui a écrit ça, mais ça n'a pas de bon sens. En tout cas, ça fait vraiment longtemps que je parlais sur le site, je vais corriger ça.
Arrête, c'est super beau. T'es sarcastique, là.
Un peu, ouais.
Ah, mais j'allais dire, voyons. C'est magnifique. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup éveillé. Puis dans ça, on parle de survivalisme. Puis là, j'ai envie qu'on en parle de survivalisme parce que c'est un tabou presque, parce que c'est pas tout le monde qui voit la survie d'un bon œil, disons. Tu sais, il y a comme vraiment... il y a plusieurs axes là-dedans. Mais la première chose que j'aimerais qu'on aborde, c'est en fait que tu nous expliques un peu les différents types de survie. Parce que là, dans l'extrait que j'ai vu, vous êtes très axé autour de la nature, mais on a une image aussi des survivalistes de bunkers, par exemple, ceux qui vont faire des grosses réserves de cannes puis qui vont se creuser des affaires. Donc, peux-tu nous allumer un petit peu, nous éclairer un petit peu sur les différents types de survivalistes puis votre position dans tout ça?
Ouais. Premièrement, oui, il y a différents types de survivalisme. Il y a des courants qui sont... comme un peu le néo-survivalisme qui va aller puiser dans les, tu sais, dans les technologies écologiques ancestrales ou encore les nouveaux courants comme la permaculture, qui le retour à la terre, le savoir-faire, le faire soi-même. Donc, mais c'est pas des frontières qui sont si déterminé que ça. Tu sais, il y a un paquet de survivalistes style bunker qui aiment aussi faire leur jardin. Là. Il faut pas... Ce que j'essaie de faire depuis 5-6 ans, depuis que les médias s'intéressent à ça, j'essaie de montrer que les survivalistes en général veulent juste être confortables, pas être dépendants du gouvernement en cas de crise, pour pas alourdir de toute façon l'aide. Dans le fond, si un survivaliste va être autonome, donc que ce soit par accumuler des biens puis les storer, ce qui est une bonne chose, je suis pas contre ça, ou encore par des connaissances puis d'être un peu plus chasseur, un peu plus pêcheur, être capable de faire ses vêtements. Et c'est un mix. Il y a des survivalistes qui sont un petit peu plus dans les technologies, dans l'accumulation, il y en a, mais de plus en plus, tout est mixé. Fait que j'avais des survivalistes, ça arrive qu'un survivaliste super hippie, super nature, finalement se procure des armes à feu parce que c'est tout à fait logique, puis que la personne qui a plein d'armes à feu, puis qui a un bunker, parce que ben ça serait le fun que je sache c'est quoi les plantes qui poussent sur mon gazon, que je puisse les manger en cas de besoin. Fait que tu sais, je trouve que ces frontières-là, nous, ce qu'on travaille à faire, c'est d'arrêter de penser en silo, puis de laisser faire ça le plus possible. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a des purs et durs, puis il y a des survivalistes qui ont comme aussi des idées politiques, puis tout ça, mais nous autres, on s'embarque pas du tout là-dedans. Puis d'ailleurs, moi, on enterre un bunker avec mes amis, c'est dans la série de Historia. Puis dans la série à Historia, les derniers humains, on voyait, dans le fond, le but de la série, c'était de montrer différents types de personnes, de leur approche, puis des approches complémentaires. Puis, tu sais, il n'y a aucun problème pour moi dans la même journée d'aller tirer à l'arc et d'aller tirer une arme à feu, parce que pour moi, c'est du savoir. Ce qui me fait triper, c'est le savoir ancestral. Ça, c'est certain. Si tu m'offres une journée à me faire piquer par les moustiques, à dormir sous la pluie ou un 5 étoiles, je vais préférer la première chose. Fait que c'est sûr que si tu me dis on va faire de l'arc ou on va faire du fusil, je vais faire de l'arc. J'aime mieux ça. Mais je veux pas être ignorant. Puis je m'en vais quand même, je me promène quand même en auto, je suis pas toujours à cheval. T'sais. J'adore la ville. On a une branche qui s'appelle Corvux. K-O-R-V-U-X. Puis là-dedans, ben c'est tout ce qui est moderne. À partir des pionniers jusqu'à aujourd'hui, fait que c'est les guides de technologie de survie, c'est quoi le meilleur purificateur d'eau pour la maison, le petit panneau solaire cute pour recharger ton cellulaire. Ça, c'est mon ami Geoffrey qui s'occupe de ça, mais c'est notre branche urbaine. Puis on donne des cours de survie urbaine aussi. Mais moi, c'est pas mon dada. Moi, j'aime ça casser des cailloux, faire des armes à tout ça. Pogner des carcasses dans le bois pour faire des vêtements avec. Ça, c'est ce que j'aime. T'sais. Mais c'est pour ça que les primitifs, on a voulu garder ça pur à quelque part. Donc, la mission des primitifs, c'est vraiment comme c'est décrit là. Mais comme individu, moi, mon mode de vie, ben je marie toutes les technologies. T'sais, je suis pas une personne qui est fermée à rien. Je suis pas fermée aux nouvelles technologies. Je suis pas fermée à la science, en fait. J'adore la science. Mais je laisse une grande place pour l'intuition puis pour les traditions et tout ce qui va avec. Je suis un gars qui aime pas me couper de quoi que ce soit. Fait que je vois pas pourquoi je me couperais d'une technologie nouvelle qui pourrait m'aider. Par exemple, un Zoom, une plateforme comme Facebook, je suis très au fait de la portée, puis que je veux pas être une personne qui n'est pas entendue parce qu'elle est tellement reculée puis inaccessible que mon message peut pas être porté. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté de faire des séries télé, pour ça que j'ai accepté des entrevues médias, puis que je suis à l'aise avec les technologies modernes aussi. Donc, en gros, les primitifs, c'est comme une entité pour que les gens retrouvent le primitif en eux, qu'ils voient qu'ils soient capables de faire ça. Puis tantôt, je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin là sur cette définition-là qu'on a parlé. Mais...
Absolument. L'ouverture et le savoir, c'est vraiment deux très beaux axes que vous portez. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rejette un peu l'idée de survivalisme, qui trouve ça un peu comme un jeu ou un hobby ou une lubie à la limite, tu sais, qui voit ça un peu comme une passion, point.
Je sais pas. J'ai jamais essayé de convaincre personne. Si quelqu'un n'est pas convaincu, je me dis que je sais pas, c'est soit un phénomène de... T'sais, j'ai jamais essayé de convaincre les gens de devenir survivalistes. C'est pas ça qu'on fait. Au primitif, on fait pas ça. Les gens viennent, ils veulent apprendre, puis ils apprennent. Il y a un thème au cours, puis ils s'inscrivent, puis ils apprennent. Je sais pas les convaincre qu'ils devraient savoir ça. Fait que j'ai jamais passé de temps à essayer de convaincre des non-survivalistes à devenir survivalistes. J'ai jamais fait ça. Je m'adresse juste à ceux qui disent « Hey, c'est-tu quoi la dernière petite catastrophe qu'il y a eu, là? Ben, moi et ma famille, on n'était pas certains de quoi faire. » Puis, tu sais, l'autre jour, il s'est passé tel événement, on a vu ça dans les médias, puis moi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. « C'est-tu quoi si je me perds en forêt? Je sais pas en tout comment m'en sortir. Puis, si j'ai pas d'allumette, je sais pas comment allumer un feu. Puis, je sais pas quoi manger dans le bois. Puis, s'il y a une panne d'électricité majeure qui dure un mois au Québec, ou s'il y a une pandémie, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Toilette, tu sais. Fait que, tu sais, là, les gens viennent nous voir avec des questions très pragmatiques et nous, on a souvent les réponses. Puis, l'autre chose, c'est que on est des coachs. Tu sais, il y a des gens qui viennent et disent, moi, j'ai peur la nuit dans le bois. Parfait. Tu vas pouvoir être la nuit dans le bois avec nous autres. Puis en plus, on va te faire peur. Fait que là, tu vas te faire la différence. Qu'est-ce qui est vraiment effrayant, qu'est-ce qui ne l'est pas. tu vas devenir confortable. Fait que, tu sais, autrement dit, c'est comme si j'avais une école de natation. Je vais pas aller me mettre à côté de gens qui jouent au tennis et dire « Hey, tu devrais venir à mon école de natation, c'est vraiment mieux que le tennis.
» Ouais, je comprends.
Si tu viens à mon école, c'est parce que ça t'intéresse, tu sais. Puis je pense qu'avec les catastrophes qu'il y a un petit peu partout, puis les situations anormales, puis le réchauffement de la planète, il y a plein de monde qui viennent pour toutes sortes de raisons. Puis nos cours sont toujours pleins.
Ben oui, absolument. D'ailleurs, c'est ça que je disais à Lydie. Je suis pas capable de m'inscrire. Je vais prendre un autre tournant dans cette question-là parce que, en fait, j'ai entendu dans une de tes conférences, puis ça m'a marqué. À un moment donné, tu as dit que, je pense que c'est justement quand vous avez fait votre projet pour Historia, pendant une semaine, vous étiez dans le bois, vous n'aviez rien, vous ont lâché là, ouais. Pendant une semaine, vous étiez là. Puis je pense que c'est un journaliste qui est venu vous voir, puis puis là, tu disais, ouais, après 3-4 jours là, qu'on est là, puis là, il me dit une affaire comme... vous jouez à faire comme hier.
Mm-hmm.
Puis toi, tu lui as répondu.
Ou on c'est se prépare. Sûr que c'est pas dans le futur.
Ouais.
Il a dit, on se croirait dans le passé. Puis j'ai dit, t'es-tu sûr que c'est pas dans le futur? Puis là, ça y a glacé le sang.
Mm-hmm.
Parce qu'il a là, il a dit, là, je viens de comprendre ce que vous faites. Ben, ouais. J'ai dit, si moi, il n'y a plus de nourriture qui rentre dans les magasins, puis j'ai plus d'électricité pour faire fonctionner mes appareils, ben là, dans le fond, mon recours, c'est d'utiliser les technologies qui marchaient avant qu'on arrive avec ces patentes-là.
Mm.
Puis je dis pas que je vais vivre jusqu'à 90 ans puis que je vais pas avoir de rhumatisme de vivre dans le bois. C'est dur, la vie en forêt.
Ouais.
Mais en même temps, moi, ça m'amuse. Puis c'est mon mode de vie. Fait que c'est pas un passe-temps, là. C'est vraiment un mode de vie. Mais c'est correct que ce soit un passe-temps pour des gens. Pas de problème.
Mm. J'adore cette idée-là. Je pense que c'est important de... Puis à quelque part, j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast qui... Des fois, on se fait une idée des genres des survivalistes, puis on se dit, OK, non, c'est trop loin de moi, tu sais. Je peux pas... Comme on se met une barrière, dire, je peux pas faire ça, mais pourtant... Puis je pense, il y a pas si longtemps, il y a peut-être un an, j'étais dans ma cuisine, puis je regardais j'avais un guide de survie en forêt, puis j'étais en train de regarder comment tuer un écureuil, puis l'ouvrir, puis pour le manger, tu sais. Puis mon beau-frère est venu, puis t'es comme, qu'est-ce que tu regardes? Tu sais, toi, tu regardes ça, puis il y avait un peu des a priori sur moi, parce que, là, j'ai un peu changé mon alimentation, mais à ce moment-là, j'étais végétarienne, puis c'est drôle que tu regardes ça, tu sais, comment cabocher un écureuil, comment l'attraper.
Ouais, un écureuil, c'est local, puis c'est bio.
Oui, mais c'est ça, mais c'est l'idée de, je vais pas me nourrir que de ça demain, mais c'est l'idée de, s'il arrive quelque chose, je veux être capable de le faire, tu sais.
Exact. Puis en passant, pour les auditeurs, c'est pas légal là, de chasser l'écureuil, mais vous pouvez l'attraper. Mais bon, bref. Exact. Et puis j'ai beaucoup de... Moi, j'étais végétarien pendant 7 ans.
Wow!
Et quand je suis passé plus vraiment là, sérieux dans ma démarche de survie puis de survivaliste, j'ai arrêté ça. Mais tu sais... je comprends puis je respecte vraiment les végétariens, mais il y a des végétariens qui viennent des fois à nos cours de cuisine. Puis dans nos cours de cuisine, on a des animaux vivants de ferme, comme des lapins, puis ils doivent les abattre. C'est un moment très émotif, hein. Les gens des fois ils pleurent,
Oui.
Des émotions. Et puis mais tout le monde est heureux d'avoir ces émotions là.
Ouais.
Pourquoi? Parce que on est tellement déconnecté de notre viande. On magasine un prix dans une enveloppe, tout est beau, tout est propre. Et beaucoup de gens se sont jamais sali les mains. Puis de faire le cycle de un peu de tristesse, de dire ah ouais, ok, ouf, ça. Puis moi je l'ai fait. Puis là les gens, quand la viande commence à cuire, les sourires reviennent. Puis là tu sais ça, puis il y a une fascination d'apprendre ça. Au début les gens pensent qu'ils sont pas capables. Moi beaucoup de ce que je fais, c'est de dire aux gens, non, t'es capable. Voici comment. Parce que beaucoup de monde se met des limites parce qu'ils n'ont jamais fait ça. C'est ce que j'appelle l'humain domestique.
Ouais.
Tu rouvres la porte, mais il ne veut pas sortir dehors. Ou il veut sortir, mais là, pas plus loin que son terrain.
Ah, que j'aime ça, ce que tu dis.
Donc, j'essaie de... Fait que c'est comme tu dis, le mot sauvage, j'essaie d'y redonner ses lettres de noblesse.
Puis... Mais c'est vrai, hein, quand on y pense, excuse-moi, je prends la... J'ouvre un petit peu la porte ici parce que j'ai trouvé ça touché, moi, me prononcer, à savoir, parce que, tu sais, le végétarisme, c'était tellement en vogue, puis c'était comme, t'es quelqu'un de mauvais si tu manges de la viande, tu sais, pendant un moment. Puis on dirait que plus je reviens à la nature, plus c'est ce côté-là de moi qui revient, de me dire, ben non, je trouve que c'est plus naturel pour moi, avec ma situation géographique, de manger de la viande de ma forêt que de manger du tofu ou des amandes ou des je sais pas quoi qui viennent de super loin puis que tu sais auquel j'aurais pas accès nécessairement, puis pas manger de la viande non plus de grande surface, tu sais, de la viande que justement qui a été chassée, qui a été, puis ma réflexion pour moi, c'est là j'essaie de me dire, est-ce que je serais capable de l'abattre, tu sais, moi-même?
C'est sûr que oui.
Je suis capable de le manger. Mais c'est sûr là, que oui. Puis, mais ça, c'est touché la question, parce que là, mon chum, il me dit, ben non, c'est la même, le niveau de conscience des animaux, c'est la même chose entre une poule et un poisson. Puis je te dis, je sais pas pourquoi, mais moi, je suis capable de pêcher un poisson, le préparer. Mais ma poule, je suis pas encore là. Mais mettons, la prochaine qui passerait, ce serait la poule, tu sais. Parce qu'on dirait que je reviens un peu dans mon instinct, puis je me dis, hey, à tous les jours, je prends soin de ma poule, je m'en occupe, je le, tu sais, puis si ce jour-là arrivait, ben, on dirait que tout serait plus en harmonie que d'aller acheter une poule qui a une vie misérable dans des usines de...
Mais là où je suis d'accord, c'est que tu es, tu sais, une vie, c'est une vie.
Ouais.
Puis moi, je suis d'accord avec le fait que, tu sais, tu es capable de prendre la vie d'un poisson, je vois pas pourquoi tu serais pas capable de prendre la vie d'un cerf de Virginie, là. Parce que, tu sais, pour le poisson, là, lui, là, il aimait ça au bout d'être dans l'eau, puis il avait vraiment une belle journée. C'est la même chose pour le cerf. Puis à ce compte-là, tu sais, les baleines, on tripe au bout, puis moi, j'étais un avocat de la protection des baleines. Mais tu sais, ça mange du krill en tabarnouche dans une journée, là, mais chaque petit krill, là, il avait le goût de rester en vie pareil, tu sais.
Ouais.
Mais est-ce que ça, c'est naturel, tu sais?
Ouais.
C'est naturel. Puis une chose qu'il faut comprendre, c'est que on n'a plus assez d'animaux dans nos forêts pour que tout le monde, les 7 milliards de personnes, mangent à leur faim avec ce qu'il y a dans la forêt. Donc, on est dans une réalité différente. Mais c'est certain que présentement, on perd énormément de chasseuses et de chasseurs chaque année. Parce que les gens n'ont plus le temps, parce que ça coûte de plus en plus cher, parce qu'il y a de plus en plus de règlements. C'est une démarche que nous, on encourage de s'intéresser à ça. Puis la journée que, c'est un peu comme la cueillette de plantes, la journée que, aujourd'hui, je vais aller chercher ma salade en forêt. Ben, aujourd'hui, tu te fais une différence. Je vais aller chercher un animal, puis je vais récolter, puis je vais faire tout ce qu'il faut, puis je vais faire tous les efforts à aller chercher ma protéine animale. Mais, moi, j'ai un instructeur, lui, végé. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait pas de société primitive qui était végétarienne. Il y a eu des sociétés, il y a eu des sociétés plus grandes, parce que là, il y avait de l'agriculture, puis il y avait des motivations de religion et politique pour manger moins de viande possible. Mais tout ce qui était primitif, là, il y avait pas de peuple primitif qui était végétarien. C'était pas tu sais, il y avait pas de peuple végan, là. Ça se pouvait pas. Puis il y a beaucoup de mauvais arguments, tu sais, j'ai entendu toutes sortes de choses par rapport à notre forme de bouche, puis aux dents, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de raccourcis, tu sais, mais dès que l'humain a pu manger de la viande, puis qu'il a pu cuire sa viande, ça a fait toute une différence dans son évolution. Puis si on regarde des animaux, des tout petits animaux qu'on adore, tu sais, comme les écureuils, puis que, tu sais, la nature, c'est donc bien beau, puis le fun, mais tu sais, un écureuil, ça mange des bébés oiseaux. C'est supposé être un bon genre, tu sais, puis les cerfs de Virginie, là, les beaux petits cerfs, là, ben, ils vont manger de la viande s'ils ont accès. Donc, c'est pas l'air d'en chasser, mais c'est documenté qu'ils vont se nourrir de gras et de protéines s'ils peuvent en trouver. C'est pas le cœur de leur aliment. C'est pas des omnivores, mais ils sont capables d'en manger. Ouais. Nous, ben, on est des omnivores. Notre design est fait pour vraisemblablement manger plusieurs choses. Mm. Puis,
Mais c'est tellement un monde complexe, puis c'est vrai que, tu sais, on a oublié un petit peu cette idée-là de survie, puis aussi l'idée que là, tu sais, il y a ces arguments-là qui rentrent, puis à un moment donné, ça fait plus vrai, tu sais, c'est dur d'avoir un détachement puis un portrait global de tout ça, parce que justement, il y a tellement de nuances, puis là, j'ai perdu mon idée sur ce que je voulais dire, mais par rapport au style alimentaire, c'est que, tu sais, manger de la viande, si on vient au primitif, j'imagine que tu mangeais pas 3 gros steaks par jour non plus, tu sais. Il y avait des périodes où peut-être que tu n'avais rien, puis que là, c'est juste que si on le remet aujourd'hui, manger de la viande à tous les repas, ça fait pas non plus de sens.
En fait, c'est super intéressant parce que en fait, on se bourrait avant. Parce que la ressource, on savait jamais quand est-ce qu'elle allait revenir. Un des problèmes qu'on a avec notre addiction pour le sucre, puis parce que nous autres, on n'a pas évolué, là. Socialement, ça a changé vite, mais nous, on l'a...
Le corps
est pareil. Fait qu'avant, il fallait qu'on se batte avec les singes, par exemple, pour avoir des fruits. Fait que là, pendant qu'ils étaient mûrs, il fallait vite les gober, toute la gamme. On n'avait pas de place pour les storer, pour les entreposer.
J'adore ça de parler. On a tellement des belles images. Il faut se battre avec les singes, les écureuils mangent les petits oiseaux.
Puis là, fallait qu'on soit rapide pour pas que ça soit gâté, pour pas que ça devienne dégueu, pour pas que les insectes nous volent la bouffe. Fait qu'il fallait se bourrer. Et puis, ça explique aussi pourquoi qu'on a de la misère à se contrôler avec la bouffe. Tu sais, ça arrive, puis t'as quelque chose de bon, là. T'as pas le goût d'arrêter. Parce que notre design est pas en fonction d'une chaîne alimentaire qui, chaque jour, va rouvrir, puis que tu peux acheter ta pizza congelée puis ta portion tranquille. Ça, c'est vraiment nouveau dans notre histoire, là. Ça fait pas 10 000 ans que c'est le même, là, Ça fait vraiment, vraiment pas longtemps parce que nos arrière-grand-mères n'ont pas connu ça. Vraiment pas longtemps, là. Fait que, tu sais, notre façon de gérer notre appétit n'a pas évolué avec les technologies de nous nourrir.
Ouais. Eh là là, que tu viens de faire peut-être des lumières pour tous les binge eaters de ce monde.
Les quoi?
Le binge eating, là, c'est comme quand tu te restreins, puis à un moment donné, fou, tu as une crise de bouffe, puis là, tu manges.
Et donc, le jeûne, pourquoi c'est à la... Moi, je trouve que ça fait full de sens, le jeûne intermittent, parce que ça l'active exactement comme qu'est-ce qu'on vivait. On prenait, mettons, on mangeait, puis là, une couple de jours, on n'a pas de bouffe. Puis là, on part. Puis c'est pour ça que maintenant, les athlètes, c'est beaucoup utilisé, parce que notre système est fait pour ça. Mais je suis pas un diététiste. Je suis un survivaliste. Si vous regardez ma diète, des fois, vous allez être déçu. Des fois, vous allez dire « Oh wow, ça flash ». Des fois, vous allez dire « Ah, t'as mangé ça ». Moi, je suis un survivaliste. Fait que moi, je me vois comme un scavenger en anglais. T'sais, moi, je suis un opportuniste. Puis, je ne vais jamais refuser un repas. T'sais, s'il faut que j'arrête au service de l'auto quelque part sur la route, je vais l'arrêter. Fait que déchirez pas votre chemise. Si vous voyez mon véhicule, dis, hey, lui, il n'est pas supposé de manger juste...
du chevreuil.
Non, c'est ça.
Il est en train de chasser.
Mais okay. Ça se peut, je mange une marmotte morte sur le bord de la route aussi. Là. Fait que, t'sais,
OK, attends, là, faut que je te demande si c'est vrai. Parce que là, on ne sait pas, là.
C'est un fait connu, oui. Vous le demanderez à mes enfants, ça peut arriver.
Ben non, c'est vrai. OK, j'ai comme... Je sais pas où j'ai pris ça, mais j'ai entendu une légende urbaine comme quoi il fallait pas... Fait que toi, dans le fond, tous les chevreuils...
On n'est pas
supposé. Non, c'est ça. Mais tous les chevreuils morts sur le bord de la route, toi, tu fais partie de ceux qui disent « Ah, quelle perte! » Ça veut dire.
ouais, c'est ça. Je fais juste dire « quelle perte! Ouais. »
OK. J'adore ça.
On ne passerait jamais par l'idée de cuisiner ça à mes enfants, là.
OK. On a ici, vous voyez des yeux qui roulent dans votre visuel mental.
Ben, on n'a pas le droit de ramasser ça sur le bord de la route, là, gang. Faites pas ça.
Faites pas ça. C'est un professionnel. Non, merci pour toute cette belle parenthèse alimentaire. On revient à la survie de base, parce que là, mettons que je pars en excursion, en randonnée, canot-camping, quelque chose de simple, mais d'assez perdu. Qu'est-ce que j'amène avec moi d'un coup que je chavire puis je me retrouve pris dans le milieu de la forêt?
OK.
Avec plus d'implication.
Oui, la première chose qui est la plus importante, ça va être un appareil technologique. si tu pars dans une expédition là pour la peine, parce que le mot expédition, là, c'est pas aller au Mont-Saint-Hilaire.
Non, c'est... Oui.
Donc, si tu pars vraiment dans une zone où tu n'as plus de connexion cellulaire, Ça te prend un appareil satellite, par exemple, de marque FindMeSpot. Ou est-ce que tu as un appareil qui coûte une centaine de dollars puis que tu as un abonnement? Puis ça va, c'est une balise que tu vas garder sur toi, puis tu vas être capable d'envoyer ta position. Et ça va te sauver la vie. Et si on n'a pas de nouvelles de toi, ben ta dernière position va quand même nous donner une idée de dans quel secteur chercher ton cadavre. Dans le fond, si t'es arrivé quelque chose de terrible, ça va nous aider de, tu sais, aux gens de rechercher sauvetage à te trouver. Donc, ça, moi, ça m'a permis de faire des aventures, même dans d'autres pays, avec ma jeune fille, qui a maintenant 17 ans, Morgane, qui a fait plein d'aventures. Donc, ça me permettait de partir puis de dire à mon enfant, regarde ça, on a un pépin, puis moi, je suis plus capable, je me suis cogné la tête. Toi, tu ouvres ça, tu passes sur le SOS, t'attends que la petite lumière elle allume, puis tu restes ici, tu bouges pas, puis il y a quelqu'un qui va venir te chercher. Donc ça, c'est vraiment, on parle d'expédition, on parle de territoire où tu n'as plus de signal. C'est certain que si tu es au Mont-Tremblant et que tu restes dans les sentiers, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu n'étais pas supposé te perdre. Sinon, les gens planifient la météo de jour. Planifier des vêtements pour passer la nuit. Ça, c'est une des choses. Votre niveau de panique va être diminué si vous dites « Ah, ben j'ai des bons vêtements ». Pour la nuit, je me suis égaré, mais probablement que demain matin, quand je vais y penser, là, je vais peut-être entendre un véhicule, je vais peut-être d'être capable de pouvoir passer plusieurs jours. Donc, souvent, les gens s'habillent trop de manière trop légère. Ça, c'est une erreur qui se fait beaucoup. Après ça, c'est sûr, quelque chose pour faire du feu et quelque chose pour vous hydrater. Donc, une gourde en métal, par exemple. Pourquoi en métal? Parce qu'on peut la mettre sur le feu pour faire purifier votre eau, faire bouillir votre eau, puis vous pouvez cuire votre petit écureuil que tu parlais tantôt, là, que t'avais un appétit là, pour les écureuils. Fait que tu peux faire cuire des petits morceaux d'écureuil dedans. Puis, dans le fond, ça peut servir à plusieurs choses. Faites pas coller l'écureuil dedans parce que ça va goûter tout le long. Vous allez prendre de l'eau, vous allez goûter de l'eau à l'écureuil, hein, je vous dis. Là. Mais, et puis, c'est comme récemment, j'ai fait un 4 nuits en hiver de survie pour tester des choses. Puis j'avais justement un couteau et de la corde. J'avais pas de gourde, j'avais pas d'allumette, j'avais pas de sleeping bag, j'avais pas rien, j'avais pas de bouffe. J'avais un couteau et de la corde.
Wow.
Donc, le couteau, quand tu sais quoi faire avec et tu as des compétences, c'est l'affaire la plus dure à remplacer. Puis, cependant, on se pratique même sans couteau. Fait que tu sais, on joue avec ça. Des fois, on amène une gourde, on n'amène pas de couteau. Des fois, on joue comme ça. Tu sais, puis nous, notre école, notre réputation, on s'est faite beaucoup parce qu'on aime pratiquer puis expérimenter pour de vrai. Tu sais, fait que c'est pas juste la théorie. Il n'y a pas de PowerPoint chez les primitifs.
Non. Je suis curieuse. Pas de gourde, admettons, pour recueillir l'eau.
J'ai utilisé de l'écorce.
Ah.
Ouais. Puis ouais.
Puis pour la filtrer ou j'ai plein de questions.
Ben là, j'avais pas besoin de la filtrer parce que c'était de l'eau qui venait de la neige. Fait que dans le fond, je faisais fondre l'eau de la neige.
OK. Puis à ce temps-là, quand c'est l'eau de la neige, pas besoin de filtrer.
À ce temps-là de l'année, non.
Ah.
À ce temps-ci de l'année, si tu trouves de la neige, tu as besoin de la purifier parce qu'elle est plus belle. Ouais.
Wow, OK. Là, j'ai comme plein de questions qui me viendraient, mais je vais vous rediriger vers les formations des primitifs pour ça. T'es consultant en survie aussi. Je voulais te poser la question parce que tes compétences t'ont amené à réaliser plusieurs mandats super intéressants, entre autres pour la Défense nationale et pour la police. J'étais curieuse de savoir un peu dans quel genre de situation ils pouvaient faire appel à toi. Si tu peux nous donner des...
Oui, ben, il y a quelques années, j'ai enseigné à différents groupes sur la base militaire de Valcartier. Puis eux, ils cherchaient à faire des activités, dans le fond, des activités de cohésion, où est-ce que on amenait du savoir qui n'est pas du savoir qu'il y a dans l'armée. Donc, dans le fond, dans l'armée, ils ont un mode, ils ont une phase de survie. Là, nous, on arrivait avec des choses un peu plus préhistoriques, des trucs comme ça. Puis, c'était des belles activités pour eux. On a fait toutes sortes de formations. Il y a des formations, des fois, c'était deux jours. Des fois, il y a des formations, c'était des 5 jours. On a fait toutes sortes de types de groupes. On a travaillé aussi avec la réserve. Puis, en pistage, j'ai travaillé aussi beaucoup avec à 3 ou 4 reprises avec les équipes de recherche au sol de Bagotville, parce que j'ai une expertise en pistage, puis en pistage humain, donc en pistage animal et en pistage humain. Puis, ben, avec la police, dans le fond, on n'a jamais travaillé le côté survie. Ça va peut-être venir parce qu'ils nous ont approché pour certains de leurs jeunes candidats, mais on a travaillé le pistage humain avec la police puis la recherche et sauvetage. Donc, dans le fond, eux autres sont très, 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 très forts en recherche. J'ai rien à leur apprendre sur comment chercher. Mais on avait des choses à partager concernant le pistage, la traque. Un coup qu'on a des indices puis des traces, quoi faire, puis il y a eu des bons échanges, puis eux-mêmes m'ont invité à faire des formations que je comprenne comment ils font leur recherche. Donc, j'ai été invité à aussi. Donc, ça a été un bel échange à ce niveau-là. Et puis, on continue. Chaque année, il se passe des choses, puis on continue la collaboration, mais c'est ça. Puis avec l'armée, ben dans les dernières années, on a fait moins de survie avec eux. On a fait du pistage. Puis, c'est ça. Ça va avec les mandats qu'ils ont, puis le temps qu'ils ont, puis c'est ça. Mais il y a beaucoup de soldats quand même qui viennent à nos formations, puis le savoir se passe aussi d'une fois à l'autre. Fait que, ouais.
Wow, je trouve ça merveilleux.
C'est rare pour un soldat il y a peu de chances qu'un groupe de soldats soit vraiment perdu, là, parce qu'avec la logistique de l'armée, c'est rare, c'est contexte. Mais certains types de soldats que ça pourrait leur arriver quand même. Mais c'est pas, quand tu te promènes avec 100 personnes puis des blindés, là, te perdre, c'est pas la même chose que quand t'es quelqu'un qui fait de la randonnée puis qui est mêlé, là.
Non, ouais, c'est ça. Mais quand même, je trouve ça fou que l'armée se tourne vers vous autres. T'sais, ça montre vraiment que vous répondez à un besoin qui était.
Oui, mais je pense pas qu'ils en ont réellement besoin dans leurs opérations, mais que c'était quelque chose de, c'était une thématique qui était le fun pour les soldats de pratiquer puis de bâtir un peu l'esprit d'équipe puis d'avoir du fun en faisant ça. Fait que c'était quelque chose qui était un peu aussi ludique, puis qui tombait dans des choses qui les intéressaient. Mais tu sais, souvent on leur montre des plans d'ici, par exemple, mais ils sont jamais déployés ici, là. Il faudrait montrer des plantes d'Asie ou des plantes du Moyen-Orient. C'est pour ça que c'était des collaborations de fun, mais je me fais pas la grosse tête pour ça. Ils ont énormément de savoir eux-mêmes dans l'intérieur des forces.
On remarque que tu es très humble. Une personne très
Ben,
humble.
j'ai pas le choix. Ben, moi, je me fais donner des volées par maman nature à tous les fois que je sors dehors.
Ben, justement, j'ai envie qu'on en parle, là, parce que tu prêches par l'exemple, en fait, t'aimes ça te mettre en situation de survie souvent. T'en as abordé une d'ailleurs que t'as fait il n'y a pas si longtemps, passer un 4 jours avec juste un couteau puis une corde, faut le faire. Je suis curieuse, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience la plus marquante ou la plus intense, mettons?
Ben, j'en ai fait plusieurs, mais puis des fois c'est pas ce que le monde pense. Des fois c'est juste des mauvais choix.
Ben non, mais si tout est parfait, surprends-nous, puis prends ce qui est vivant en ce moment là, en toi, là, ce qui s'anime, ce qui s'éveille.
Ouais. Ben, tu sais, j'ai passé beaucoup, beaucoup de nuits misérables. Tu sais, ça, c'est un peu ma marque de commerce. Vraiment des nuits misérables, j'en ai passé des centaines. Faire un choix là-dedans, tu sais, c'est sûr que je parle souvent, les gens m'entendent parler des trucs mémorables quand j'ai dormi à moins 48 au Nunavik pour tester des choses. Puis, tu sais, ce que je voulais faire, c'était dormir comme quelqu'un qui avait pas de notion, juste pour voir ça fait quoi dans le corps. Fait qu'avec mes vêtements, que j'avais transpiré dedans, des vêtements qui sont, à mon avis, pas super bons pour la survie, des vêtements de motoneige, puis des bottes. Puis là, j'essaie de dormir. J'ai fait 3 nuits, puis la dernière nuit, il faisait moins 48. Puis à un moment donné, j'étais plus capable. Et je me suis creusé un trou avec mes pieds, comme les oiseaux qui font là-bas. Dans le fond, c'est des agents de perdrix blanches qui s'appellent des lagopèdes. Quand il fait trop froid, ils se creusent un trou eux-mêmes pour essayer de s'isoler. J'avais juste une couverture de laine puis une peau de caribou qu'un ami m'avait prêté. Puis je voulais pas prendre la peau de caribou, mais à un moment donné, j'ai fait comment que je vais prendre la peau de caribou. Je dormais par petits bouts, puis je rêvais que mes os éclataient.
Ah!
Ouais. Puis je riais vraiment de moi parce que c'est ça. Je trouvais ça. C'était vraiment un froid que j'avais jamais expérimenté. J'avais expérimenté beaucoup de types de froid. Celui-là, il était vraiment marquant. Sauf que il y a d'autres fois où j'étais dans des situations complètement ridicules où est-ce que il faisait beaucoup moins froid que ça, par exemple. Il y a des nuits horribles que j'ai passées où il faisait 12 degrés. Sauf que toute la journée, il faisait super chaud. J'étais juste en short et en t-shirt, nu-pied. Puis le soir venu, avec le 12 degrés comme ça, avec ma brillant avec des petites feuilles, après avoir passé la journée à me faire piquer, puis là, il y a une petite pluie fine qui tombe sur toi, par-dessus tes coups de soleil que tu as eu dans la journée. Là, tu as les piqûres de maringouin, tu as la pluie, t'as les feuilles mortes humides sur toi qui essayent d'être une couverture parce que t'as pas de couverture, t'es juste en short et en t-shirt. Puis puis là, à un moment donné, il arrête de pleuvoir, puis tu ris. Tu fais juste rire parce que tu fais comme je fais ça volontairement. C'est vraiment...
Mais là, tu dois avoir tellement un feeling de... Tu sais, une raison pour laquelle tu fais ça, ça doit... Après coup, c'est comme le feeling que ça te procure, ça doit être juste... débile, tu sais, de dire « OK, hey, wow, j'ai fait ça, tu sais. »
Ben, moi, c'est maintenant, c'est plus ça, là. Maintenant, c'est... Au début, oui, tu fais comme « Wow! » Mais maintenant, je le recherche. C'est-à-dire que j'encourage les gens à passer d'excellentes mauvaises nuits pour faire un reset. Je pense qu'on a une addiction au confort qui nous rend moins aptes au changement. Et ça me fait peur sur plusieurs générations. T'sais. Est-ce que 1000 ans de confort va détruire 50 000 ans d'évolution dans l'inconfort?
Oh, que c'est bon ce que tu dis là.
Donc, j'aime le confort, oui, mais je me maintiens dans des niveaux d'inconfort régulièrement pour ne pas m'endormir. T'sais, comme, pis c'est drôle parce que ma fille pourrait compter plus d'histoires, ça serait gênant que ce soit elle qui compte, mais tu sais, si j'ai un groupe qui dort...
Oups, attends un peu, Mathieu, je pense que tu as la main sur ton... ce qui capte le son, ça se peut-tu?
Tu m'entends, là?
Ah, non, t'as comme...
Tu m'entends-tu?
Ouais, je t'entends, mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était déposé sur ton micro.
Ouais, mais j'ai rien changé pourtant, mais là, est-ce que c'est mieux?
Attends un petit peu, je vais poser.
OK.
OK, parfait. Ça a coupé un peu. On a eu un petit problème de son, mais on est de retour. Donc, je te laisse la parole.
Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est toujours d'être plus inconfortable que tout le monde. Donc, si j'ai un groupe qui dort sur le bord du feu, puis qui ont froid, puis qui ont des couvertures de laine, moi, je vais aller dormir, pas de couverture de laine, pas de feu. Là, je sais que vous vous demandez pourquoi, je sais pas, mais... J'aime offrir ma souffrance à la forêt, à la nature, en retour des compétences qu'elle me donne. Mais en même temps, je conditionne mon corps. Moi, j'ai ma capacité principale en survie, c'est d'être capable de dormir n'importe où. D'ailleurs, je me suis endormi l'autre jour en me faisant faire un plombage.
Wow.
La dentiste n'avait pas vu ça souvent. Elle m'a dit « ça va? » Là, j'ai dit « est-ce que j'ai ronflé? »
Hey, mais c'est drôle, ça m'est arrivé moi aussi de m'endormir chez le dentiste. Ouais. Mais je pense que moi, c'est que je sens rien. Là. Si tu me gèles, je suis gelée. Là. Fait que je sens rien.
Mais moi, j'étais relax, tu sais. Puis quand je me fais taper aussi, il faut que je fasse attention pour m'endormir.
C'est très drôle.
Pas partout, là, parce que c'est sûr que t'as tout direct sur la colonne, là, ça réveille. Mais, mais bref, dans le fond, d'être capable de récupérer. Les premières nuits en forêt, les gens ont trop d'adrénaline. c'est trop nouveau le cerveau, fait comme ben voyons, on dort pas ici. Puis en rentrant dedans, c'est là qu'on sent le domestique, tu sais, le confort, c'est quelque chose qui est tellement important. Que là,
ça vous est-il déjà arrivé de quelqu'un qui, là tu m'allumes là-dessus, mais quelqu'un, mettons, qui est super motivé, qui veut le faire, puis que là, il arrive là, puis justement, le froid arrive un peu, l'inconfort qu'on n'est pas habitué, puis là, c'est quand il l'impression de « je ne serais jamais capable de faire ça ». Puis une personne veut s'en aller, tu sais, comment vous gérez ça?
Ouais, mais on les attache, là. non, c'est rare. Les gens ne partent habituellement pas à cause du froid, parce que là, on leur donne des techniques, des trucs, tout ça.
Okay.
Parfois, ça peut arriver, puis en général, c'est des raisons psychologiques. Là, ils ont dépassé leurs limites psychologiques et non physiques. C'est rare que... Puis ça, je dis ça avec beaucoup de respect, parce que, tu sais, si par exemple, t'as justement un soldat qui a du post-traumatique, puis que là, lui, de se retrouver dans le noir, dans une forêt, ça lui fait faire des flashbacks, ou de juste zipper son sac de couchage, par exemple, s'il a accès à un sac de couchage, ça peut être déjà trop. Ça peut être déjà ça. Mais habituellement, nous, on prend les gens... Tu sais, t'as pas besoin d'être tough pour venir au primitif. Ça, c'est une affaire. Des fois, j'entends dire « Ah, ben, moi, je vais pas au primitif, c'est ben trop tough, j'ai entendu des histoires. » Peu importe dans quel niveau que t'es, on va te prendre. Puis, si t'es super avancé, fais-en pas, on va te sortir de ta zone de confort. Si t'es super débutant puis que t'as peur du noir, on va te prendre par la main puis on va t'amener à être super extraordinaire, de pas avoir peur, d'avoir de l'expérience. T'sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent de l'expérience dans la nature. T'sais. Tout le monde tripe sa nature. La nature, c'est magnifique. Il faut la sauver, mais il n'y a pas grand monde qui passe vraiment beaucoup de temps avec elle.
Oui. Mais je trouve que ça transparaît. Vous réussissez à bien le faire à travers vos communications, d'être super inclusif, puis que tout le monde se sente le bienvenu. Et vraiment, bravo pour ça, parce que c'est justement, on est tellement rendu dans notre confort que ça peut nous sembler hyper lointain, tu sais, de faire ça. Écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait se parler super longtemps. J'ai deux questions peut-être avant de parler de tous vos beaux services et ce que vous offrez. Par rapport à la famille, tu as parlé de ta fille Morgane, je crois, et de Morgane? Wow!
Ouais.
Magnifique!
Ouais, ça c'est la déesse des héros morts au combat dans la tradition celtique. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de charmant.
Wow.
J'ai jamais appelé ma fille ma petite princesse. Tu sais.
Non, ben en tout cas avec tout ce qu'elle fait maintenant, je pense que c'est ça.
Non, ma fille est badass.
Ah ouais, ben justement c'est parce qu'elle est rendue, elle est aussi mentor, monitrice pour les
petits. Instructeur. Ouais.
Instructeur.
Ouais.
Fait que c'est, je trouve ça beau de voir tout ce que vous avez fait ensemble. J'ai pu voir certaines petites choses sur le site web. Mais j'étais curieuse de savoir, est-ce que tu dirais que la survie, ça vous a rapproché en tant que père et fille?
Ah oui, quand on est dans le bois, là, c'est carrément fusionnel. Là, t'sais, on n'a même pas besoin de communiquer. On sait exactement. T'sais, ma petite fille, elle avait 5 ans. Puis elle dormait à moins 20, puis je la réveillais pour qu'elle écoute le renard japper. Puis, tu sais, les abris là, qu'elle enseigne, les abris qu'elle enseigne, elle dort dedans depuis qu'elle a 6 ans, tu sais.
Wow.
Ça va faire la différence entre une trace de corneille et une trace de berge quand elle avait 6 ans.
C'est tellement
est-ce
beau.
Que tu m'entends bien?
J'ai perdu un peu le son, tu as dû le voir dans mon visage. Peut-être si tu le ramènes plus près.
Ma petite fille, je sais pas si...
OK, donc on est reparti. Petit problème avec l'audio, vous avez peut-être le remarqué. Ça va peut-être se régler au fur et à mesure. Mais on parlait de, c'est ça justement, ta fille qui était capable, à 6 ans, de différencier les différentes traces de corneille puis de quoi tu disais? J'ai pas compris le...
Moi, je disais que t'es capable de faire la différence entre une trace de corneille et une trace de merle. C'est de faire la différence entre une trace de renard et une trace de coyote. C'est,
wow.
C'est des choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Puis on parle, on s'est tout ensemble, puis on a fait des expéditions, des aventures. Ma fille, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, je ne me rappelle jamais, mais c'est pas ça.
J'allais monter le mont Chico, Costa Rica, 3800 mètres.
Wow!
Avec son petit sac à dos. Puis elle ne s'est pas plainte une seule fois. C'est une ascension de 2 jours. Mm. Avec une descente de journée. Puis, je veux dire, à la fin, il fallait qu'elle m'attende parce que moi, j'avais vraiment mal jugé. c'est ça, on a fait la survie d'un carême ensemble, on est allé partout au Québec, puis aujourd'hui, ben, je peux lui donner un groupe à elle toute seule, puis elle va faire, elle va performer toutes les techniques là, du cours de base, elle fait du feu de par friction, donc elle est extraordinaire, bien inspirante, puis c'est une vraie ado aussi, là, tu sais, elle fait d'autres choses, elle rappe, elle écoute toutes sortes de musiques, elle a appris le coréen, tu sais, elle fait plein d'affaires qui ont aucun lien avec moi, donc elle n'est pas plein de rachés pour ceux qui s'inquiètent.
Oui,
elle,
bon.
Elle a fait sa propre petite compagnie, elle a fait des vêtements dans une friperie, puis elle a fait l'art dessus, par rapport à ça, sur Instagram, tu sais, c'est pas moi qui ai montré ça, certain.
Wow! Mais pour vrai, beaucoup d'admiration pour ta fille. Bravo à toi pour le rôle que tu as su jouer auprès d'elle pour lui apprendre tout ça, vraiment. Je trouve ça complètement admirable. Est-ce que des fois, tu as senti le jugement un peu des autres de lui faire faire des choses qui pourraient avoir l'air si intenses? T'sais, aujourd'hui, c'est tellement aseptisé, je trouve, l'enfance que...
Non, je sais pas, ma fille, je pense pas qu'elle... À part, mettons, des fois, les grands-parents qui auraient pas été. Mais ma fille, tu sais, elle peut être au cours des formations. Puis, tu sais, c'est un petit enfant qui courait du pied. Puis, tu sais, j'ai pas des enfants domestiques, tu sais, c'est des enfants sauvages, justement. Mm. Fait que mes enfants se comportent pas de la même façon dans la forêt ou dans un parc municipal qui font des autres enfants, tu sais. Fait que, tu sais, Morgane... Il n'y a jamais personne qui a trouvé ça trop intense parce que ça allait toujours bien. Elle pourrait réouvrir sa vie parce qu'elle trouvait ça trop dur. T'sais, mais t'sais, moi, j'avais. Je me rappelle une fois, j'avais 5 ans, il fallait qu'on marche 5 km. 5 ans, 5 km, juste un peu.
Ouais.
Puis, j'avais un gros sac à dos, mais j'avais tout le stock, le sécuritaire, puis tout ça. Puis, t'sais, j'avais pas prévu ça, mais il y avait tellement de moustiques que ça n'avait pas de bon sens. Puis là, ben, tu sais, elle a découvert. Puis, tu sais, c'était difficile. Puis, elle était fatiguée. Puis, là, j'ai dit, écoute, on peut pas y amener une guimauve. Si tu vas dans 5 km, ça va de. Si tu continues, puis que j'ai pas besoin de te prendre dans mes bras, tu vas avoir une guimauve.
Wow!
Fait que, elle a payé cher, sa guimauve. 5 km. Elle l'a payé cher. Mais.
Le truc fière. De la guimauve, c'est bon, ça.
Oui, tu sais, à un moment donné, tu sais, ça prend de motivation. Puis, j'avais prévu le coup. C'est bon. Tu sais, mais la grand-mère, tu sais, quand ton enfant fait des choses comme ça, après ça, il est fier, puis il gagne une confiance, tu sais.
Hey, merci beaucoup pour ça. Je te propose qu'on se laisse en te laissant la parole pour que tu nous aiguilles un petit peu, que tu nous présentes les différents services que vous offrez avec les primitifs, les formations, les petits primitifs aussi, le programme de mentorat, les événements corporatifs, tout ce qui se passe de votre côté. Comment ça fonctionne, les primitifs?
Ben c'est super simple. Dans le fond, le mieux, c'est de suivre notre page Facebook. On est bien actifs. Puis si vous voulez rêver un peu, puis regarder c'est quoi l'ambiance des cours, là, allez sur la page Facebook, puis allez dans la section photos, puis faites afficher tous les albums. Puis là, vous allez voir là, de l'historique depuis 2008. Parce qu'on est sur Facebook depuis 2008. Puis là, vous allez avoir des albums photos, là, qui vous allez trouver des photos extraordinaires là-dedans. Puis... Après ça, ben, y a des formations, on a des pastilles ou des petits icônes qui donnent l'intensité de la formation. Fait que si tu vois une icône qui est modérée, ça veut dire que c'est pour tout le monde. T'sais. C'est une intensité là qui a pas de problème. Alors, vous pouvez venir, il n'y a pas de choses dramatiques qui vont se passer. Par contre, si tu vois la pastille intense, c'est mon intensité. Ça, c'est
OK, on comprend.
Donc là, ça, si tu dis, ah, ben moi, j'aimerais ça sortir vraiment de ma zone de confort, pense-y à deux fois, tu sais. Mais, blague à part, c'est que, on a, c'est tant pour, on aime ça aussi faire des événements sur mesure. Donc, que tu sois un collectif, on a fait tellement de groupes de mamans à la maison, par exemple. On a tellement de gens qui enseignent l'école à la maison, on vient, on passe. Fait que, tu sais, que ce soit un après-midi, deux jours, on peut faire du sur-mesure, vous pouvez venir aux formations qui sont au calendrier. Si vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes dans une équipe de management, on fait des formations, on peut accueillir des groupes, on peut se déplacer. On est un peu partout au Québec. Donc, on a des formations en Gaspésie, au Saguenay, à Baie-James, à Sept-Îles, mais on fait beaucoup de formations dans Lanaudière et dans Portneuf. On en fait aussi en Estrie. On en a fait beaucoup dans le coin de Mont-Tremblant. On va sûrement recommencer bientôt. On aime ça se promener. Nous autres, dans le fond, l'école, on a juste besoin d'un terrain, puis c'est parti. Mm. Puis, je dirais aux gens d'oser venir nous voir. On a une belle tribu, puis c'est pas juste moi qui parle dans les cours, heureusement. on a une vingtaine d'instructeurs qui sont... Puis, on a beaucoup de femmes dans la tribu. Fait que ça, c'est le fun. Il y a une grande place pour les femmes parce qu'on a des femmes super inspirantes. C'est ça. Il y a Geneviève qui est là. Il y a Lucie. Il y a ma fille. Il y en a plein d'autres. Daniel. Donc, si vous avez écouté Les Derniers Humains à Historia, vous les avez vus quelques-unes. On en a beaucoup d'autres qui n'étaient pas dans la série télé. Mm.
Wow. En tout cas, juste, t'as dit, heureusement, c'est pas moi, mais moi, je trouve que déjà, juste toi, c'est super vendeur, puis là, tu rajoutes, c'est comme plein de belles couches. Moi, en tout cas, je suis vendue. Le problème, c'est pas d'être vendue, c'est de d'avoir une place. Fait qu'il faut vraiment être à l'affût de quand vos retraites sont annoncées.
Allô?
Oh, allô?
Bois, Andréane.
Ben moi c'est quand vous avez de la place. je suis comme, c'est ça que je dis à Lydie, je dis faut juste que je suis jamais assez vite pour booker ma place. Ça va faire 10 ans que je suis avec mon conjoint, puis ça faisait un petit bout qu'on disait on pourrait s'offrir ça, tu sais, on voulait que ce soit ça notre trip de 10 ans. Fait que là on continue à regarder, on va être là.
ça va me faire plaisir, là. T'as juste à me dire quelle formation tu veux venir, puis on va te faire de la place pour toi et ton conjoint pour votre 10e anniversaire. Je vais réserver un paquet de moustiques juste pour toi.
Ah yes! On les veut. Puis on prendrait aussi le pas de couverte de laine sur le banc. Mais d'habitude, je termine les entrevues avec des petites questions en rafale. Est-ce que tu aimerais te...
Super. Réponse rapide, hein, c'est ça que tu veux dire.
Oui, ce qui te montre, c'est des questions quand même assez profondes, mais on va aller, va dans ton intuition, tout ce qui ressort.
Ouais.
Première question, ta plus belle leçon de vie?
La naissance de ma fille.
Wow. Peux-tu nous parler de ton... mais ça, c'est une question qui était destinée pour toi. Peux-tu nous glisser quelques mots sur ton livre de pistage qui est destiné aux enfants?
Ah, ça, c'est un livre que j'ai écrit avec Geneviève Lavoie. Puis, c'est une grande fierté. C'est une belle trace que je voulais faire parce que j'étais tanné que les enfants aient des livres de pistage tout croche. Ou est-ce que c'est comme si on donnait aux enfants des livres de mathématiques que 2 plus 2 se faisait 3, là? Fait que je suis vraiment content que maintenant les enfants ont accès à un livre avec des vraies données puis des choses qui sont sérieuses, parce qu'ils méritent, les enfants, de connaître la nature. La nature, c'est pas juste de recyclage.
Mmh. Wow. Je vais mettre tous les liens pour aller trouver ça dans les notes du podcast. As-tu déjà pisté des loups?
Oui, souvent.
Est-ce que tu en as déjà vu?
Oui, puis j'en ai déjà appelé puis ils m'ont déjà répondu.
Wow! Wow! Ça doit être une expérience. T'étais où?
Il y a une activité qui s'appelle Sur la piste des loups. Ben, je l'ai faite à plusieurs endroits au Québec, parce qu'il y a des loups à plusieurs endroits au Québec, mais je l'ai faite à Baie-James, dans la réserve de Portneuf, dans des secs. J'en ai fait à plusieurs places. Mm. J'en ai pisté dans le parc entre Québec et Chicoutimi. J'en ai pisté un peu partout.
Wow! Hey, merci pour ça. Ça, c'était une question juste pour toi. Tu l'aurais deviné? Ouais. Les gens qui t'inspirent le plus en ce moment?
Les gens qui m'inspirent le plus en ce moment, ben moi, ma grande inspiration pour ma carrière de survie, c'est Tom Brown Jr. C'est mon professeur, mon mentor, Tom Brown Jr. Puis en ce moment, j'ai pas de personne qui m'inspire. Je suis une personne qui est attentif à tout le monde qui rentre dans ma vie, qui me croise. Je suis vraiment attentif aux gens. Mais la nature m'inspire. Ouais. C'est plus simple.
Ton plus grand accomplissement?
J'ai aucune idée. j'ai pas tant d'accomplissements que ça. Là. Je suis pas allé en prison.
ça compte. Toutes les réponses sont bonnes.
Je trouve pas que j'ai accompli. Je suis quand même pas une urgentologue qui sauve des vies à tous les jours.
Ben, tu sauves des vies dans une certaine mesure. C'est sûr que.
À ce niveau-là, mais tu sais, je pense que je suis un bon papa.
Ah non, moi, mon Dieu, l'humilité est définitivement partie intégrante de ta personne, ce qui est une très belle qualité, en fait. Mais, OK, ton plus grand souhait pour les gens qui vont écouter le podcast?
Ah, ben de trouver de la place dans nos formations.
Moi aussi, je vous le souhaite. Le plus beau témoignage que tu aies reçu?
J'en ai reçu plusieurs, mais ceux qui me touchent le plus, c'est quand les gens me disent « Hey, tu sais, Mathieu, il m'est arrivé telle situation, puis ça a fait la différence entre la vie et la mort, ou la panique. Ou... » C'est quand quelqu'un vient me voir, puis qu'après avoir fait le cours de survie, soit que malheureusement, il tombe en survie ou dans une situation vraiment difficile, puis là, il y a des techniques qu'il a utilisées, puis ça a fait la différence pour cette personne-là. Là, c'est comme... OK, c'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste de quoi être cool. Ça a eu un impact pour cet être humain-là.
Wow. Donc, tu sauves des vies.
Ah non, mais là, tu m'as vraiment trappé. Là. Je me sens trop au piège.
Tadam!
C'est pas arrivé souvent.
Écoute, Mathieu, merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis remplie de gratitude pour toi, pour ta belle personne, pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui. Merci beaucoup de ta générosité. Je vais mettre tous les liens dans les épisodes, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller vous retrouver, voir vos belles photos, être inspirés et essayer de s'inscrire à vos formations.
Donc, merci beaucoup. Puis moi, quand tu vas venir à une formation, moi, je vais te recevoir dans mon podcast, qui n'existe pas encore, mais pour avoir ton feedback de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais.
J'aime ça.
Fait qu'on va voir, on va pouvoir se rendre l'appareil, donc ça va être moi qui vais poser des questions.
Ah yes, hey, je suis excitée. J'ai l'impression qu'en contexte de survie, je suis vraiment pas une personne. J'ai fait un trip de canot camping avec une amie, puis on s'est échoué, puis ça a pas bien été, puis tout ça. Mais moi, je suis comme vraiment dans le mode zen, tu sais. Puis on dirait que, mais je gosse le monde parce que je suis comme, c'est pas grave, une chose à la fois, on fait les trucs. Mais je suis vraiment trop zen. Fait que là, j'ai l'impression que je suis tannante pour ça, tu sais. Je m'active pas nécessairement. Fait que c'est à voir. Mais ouais, ça sera définitivement une belle histoire à raconter.
De toute façon, si tu t'actives pas, moi, je crie dans ce temps-là.
Ah yes, parfait. C'est prometteur. J'ai le goût d'y aller. Non, pour vrai.
Ça fait longtemps que je crie plus après le monde.
Yeux qui roulent encore ici une fois. Écoute, merci beaucoup Mathieu. J'ai l'impression que je pourrais te parler super longtemps, mais merci du cœur.
Parfait. Merci beaucoup, Anne.
Merci infiniment à Mathieu pour son temps, pour sa présence et pour tous ses partages. Je suis tellement reconnaissante et j'en profite ici pour dire merci à Lydie. Si jamais tu écoutes ça, merci de nous avoir mis en contact. C'est tellement beau pour moi d'avoir accès à de beaux humains comme vous sur mon chemin, sur notre chemin, puisque vous êtes avec nous dans cette aventure. Bien sûr, je vous invite à le retrouver, à retrouver Les Primitifs sur leur page Instagram et surtout sur leur page Facebook, où vous pouvez trouver tous leurs prochains événements, également sur leur site web, mais aussi, comme Mathieu le mentionnait, sur Facebook, ils ont des albums photos absolument incroyables. Ces albums-là sont inspirants, sont motivants. C'est quelque chose quand même. Et donc, je vous invite, oui, fortement à partir à leur rencontre. Je vous mets, bien évidemment, tous les liens en description de l'épisode. Alors, merci encore une fois à Mathieu. Merci beaucoup également à vous qui écoutez et soutenez le podcast. Merci du cœur à toutes les belles âmes qui ont déjà donné une review 5 étoiles au podcast. Vraiment, c'est très touchant pour moi. C'est la meilleure façon de soutenir le travail que je fais ici. Alors, de mon cœur au vôtre, un grand merci en hurlement qui fait écho à travers les montagnes jusque chez vous. Et petit teaser, oui, j'en profite ici, petit teaser pour, en fait, avis aux entrepreneurs aguerris ou en devenir. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai très très envie de vous parler de marketing conscient. Alors, restez à l'affût, ça s'en vient très très prochainement. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt.